Merci, Raphaël. Je voulais juste dire que j'ai négligé de préciser la date de l'Assemblée générale. C'est fixé pour le dernier dimanche du mois de mars. Donc, je pense que c'est le 26, mais en tout cas, c'est le dernier dimanche de mars. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre série sur la vie chrétienne que nous avons intitulée « Vivre bien, vivre différemment ». Ces dernières semaines, nous avons vu comment, en tant que disciples de Jésus, nous devrions vivre différemment, différemment du monde et de notre ancienne nature. Nous avons vu comment nous devons respecter les uns les autres et aussi respecter la création. Nous avons vu la semaine dernière comment nous devons rejeter le désir de la richesse matérielle afin de poursuivre la richesse spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est lié à ces autres et qui touche notre vie quotidienne d'une façon très concrète. C'est le thème du travail et du repos. Si nous ne sommes pas appelés à chercher le gain matériel, quelle place devrions-nous accorder à notre travail? Si nous travaillons le fameux 35 heures, ça veut dire que nous passons la majorité de notre temps, au moins nos heures éveillées, à travailler. Et la plupart d'entre nous travaillent bien plus que 35 heures par semaine, surtout si nous comptons le temps que nous passons dans les transports et le travail que nous faisons à la maison, ce qui est un travail aussi important de tout ce qu'on pourrait faire au boulot. Et donc, quand nous tenons compte de tout ça, nous constatons que le travail est l'un des aspects les plus importants de la vie humaine. Et ça veut dire forcément que la Bible va avoir quelque chose à dire par rapport à notre travail. C'est vrai que nous n'avons pas tous cette opportunité à travailler. L'une des situations les plus difficiles dans la vie, c'est d'être à la recherche d'un travail sans pouvoir en trouver. Et si c'est votre cas aujourd'hui, j'espère que ce sera quand même utile pour vous d'approfondir votre connaissance de ce que Dieu dit par rapport à ce travail que vous cherchez. J'espère aussi pour nous tous que nous puissions appliquer ce que Dieu dit, non pas juste à notre boulot, mais à tout le travail que nous faisons dans notre vie, que ce soit à la maison, au boulot ou même à l'église, parce que certains des principes qu'on verra il s'applique autant à notre service à l'église qu'à notre travail au boulot ou à la maison. Je propose donc trois parties ce matin, la vocation au travail, les tentations du travail et la rédemption du travail. D'abord, la vocation au travail. Et par vocation, je veux dire appel. Dieu nous appelle à travailler. Nous avons déjà regardé à plusieurs reprises les premiers chapitres de Genèse pour cette série et nous allons continuer à le faire, en partie parce que c'est dans ces passages où nous trouvons les fondations pour beaucoup de ce qui vient après. Comme nous l'avons déjà vu, lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a donné à l'humanité la tâche de cultiver et garder la création. Il y a quelques semaines, nous avons exploré la façon dont ce commandement nous exige à prendre soin de la création. Mais il faut savoir que l'importance de cette tâche va bien au-delà de notre relation avec l'environnement. Au fond, c'est un appel à faire fructifier toute la création, tout le potentiel de la création de Dieu, de prendre ce que Dieu nous a donné et en construire quelque chose. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit par rapport à ça, mais c'est extrêmement important de reconnaître que notre travail quotidien est une réponse à cette tâche que Dieu nous a donnée au début. Et il faut noter bien que cette tâche nous a été donnée bien avant la chute, c'est-à-dire bien avant l'arrivée du péché dans le monde. Ce qui veut dire que le travail n'est pas le résultat du péché. Malgré ce qu'on peut ressentir le lundi matin lorsqu'on monte dans le train bien avant que le soleil se lève, ou lorsqu'on fait manger les enfants pour la énième fois, le travail n'est pas une malédiction. Au contraire, le travail faisait partie du monde parfait que Dieu a créé. Et l'être humain a été créé pour travailler. C'est pour ça qu'on se sent tellement bien après avoir bien travaillé. Parce que nous avons exercé notre capacité en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu. Et inversement, c'est pour ça que nous pouvons avoir tellement de mal lorsque les circonstances nous empêchent de travailler. Parce que si l'être humain a besoin du repos, comme nous allons voir, il a aussi besoin de travailler. À la base, le travail est une bénédiction. Et c'est le premier point. Ton travail, quoi qu'il soit, est un travail spirituel. Si Dieu nous a donné le travail, ça veut dire que forcément c'est quelque chose de spirituel. Nous avons trop de tendance dans le monde occidental à dissocier le spirituel et le matériel. Prier, c'est spirituel. Mais nous imaginons que faire la vaisselle n'est pas. Chanter, c'est spirituel, mais aller au boulot chaque jour n'est pas. Écouter un message, c'est spirituel, mais aller à l'école, pas du tout. Sauf que Dieu ne divise pas la vie comme ça. Toute bonne chose vient de Dieu. Vous le savez, c'est la Bible qui dit. Toute bonne chose vient de Dieu. Et donc, pour un enfant de Dieu, pour ceux qui ont les yeux pour voir, tout est spirituel. C'est vrai que la Bible nous dit de fixer nos yeux sur les choses d'en haut. Mais notre travail est un appel et une bénédiction qui vient justement d'en haut. C'est Dieu qui nous donne cette tâche. Et donc, c'est une bénédiction. Et c'est une marque de maturité dans la vie d'un chrétien, d'être capable de reconnaître l'aspect spirituel des choses qui sont très terre à terre. C'est la maturité qui nous permet de voir les réalités spirituelles dans notre vie quotidienne. Et en effet, ça c'est l'un des sens du commandement de prier sans cesse. Vous connaissez ce verset ? Priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse, lorsque tu es dans une réunion avec ton patron? Qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse, lorsque tu fais tes courses? Ce n'est pas simplement demander à Dieu de rendre le patron un peu moins méchant aujourd'hui, même s'il faut parfois. C'est une prière tout à fait légitime. Et ce n'est pas non plus de lui demander de nous aider à supporter la foule à Carrefour. Ça aussi, ça peut être légitime. Mais prier sans cesse signifie rester conscient de la présence de Dieu avec toi à chaque instant et du fait que la tâche devant toi est une tâche qui, à la base, t'était donnée par Dieu lui-même. Lorsque je sors les poubelles, Dieu est à mes côtés. Et cette tâche fait partie de la vie qu'il m'a donnée. Je n'ai pas l'habitude de remercier Dieu quand je sors les poubelles, mais je pense que je devrais commencer. Lorsque tu téléphones un client, Dieu est avec toi et cette tâche fait partie de la vie qu'il t'a donnée. Notre vie avec Dieu, notre vie spirituelle ne se limite pas au temps que nous passons à l'église ou en lisant la parole, même si ça c'est la base. Mais le reste de notre vie est spirituel aussi. car toute cette vie, tout ce qui existe, nous avons déjà vu, tout ce qui existe subsiste en Christ. Il continuait à exister parce que Christ existe. C'est pour ça que Paul peut dire aux esclaves même, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Nous allons lire Colossiens 3, verset 22. Je vous encourage à le trouver. C'est un passage très surprenant. Colossiens 3. C'est dans le Nouveau Testament, l'une des épîtres de l'apôtre Paul. Colossiens 3, verset 22 à 24. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Parce qu'au final, le travail est un don de Dieu. Et c'est lui le vrai maître. Et l'apôtre Paul a dit ça même aux esclaves. C'est très surprenant. Et donc d'abord, une petite parenthèse. Il faut savoir qu'au contraire de ce que certains ont dit par le passé, la Bible ne justifie point l'esclavage par ce genre de passage. Selon 1 Timothée 1:10, par exemple, trafiquer des esclaves figure sur la liste de péchés très, très graves avec la meurtre et l'immoralité sexuelle. La Bible condamne clairement l'esclavage. Alors, lorsque l'apôtre Paul encourage les esclaves à bien travailler, ce n'est pas pour justifier l'esclavage, c'est pour encourager ceux qui souffrent dans cette situation très difficile. Mais dans quel sens? Dans quel sens est-ce que l'apôtre encourage ses esclaves? D'un côté, on peut bien dire que c'est pour qu'ils aient un bon témoignage. Et c'est vrai que le comportement de ces chrétiens qui vivent l'esclavage pouvait être un témoignage aux autres. Et dans ce cas-là, ces instructions de l'apôtre sont un encouragement à nous tous qui souffrent, de supporter la souffrance d'une manière digne du Seigneur. Comme pour nous, en tant que chrétiens, si nous faisons notre travail bien, c'est un bon témoignage envers nos collègues. En 1 Thessaloniens 4:12, l'apôtre encourage les chrétiens à travailler justement pour que, et je cite, « leur conduite soit honorable aux yeux des gens de l'extérieur ». Notre conduite devrait refléter le caractère de Dieu, même dans des situations extrêmement difficiles. Si nous faisons bien notre travail, c'est un bon témoignage envers nos collègues ou envers notre époux ou notre épouse ou nos enfants. Et là, j'aimerais aussi préciser que je ne parle pas vraiment d'évangélisation. Ces passages ne parlent pas vraiment d'évangélisation parce que ça va de soi pour un disciple de Jésus que nos relations au travail, comme toutes nos relations, peuvent être une occasion pour parler de Jésus. C'est aussi vrai pour notre travail que n'importe quelle autre activité que nous avons. Mais aujourd'hui, nous parlons de notre travail en soi. À quoi ça sert? Et comment notre travail en soi peut être un témoignage? Il faut savoir que si les gens connaissent que nous sommes croyants, notre travail lui-même devrait être un témoignage. Mais notons aussi que dans ce passage, Paul va même plus loin. Il dit explicitement, et voici ce qui est vraiment étonnant, il dit explicitement, travaillez avec sincérité de cœur, pas seulement sous leurs yeux. C'est-à-dire que l'importance de ce commandement va même au-delà de leur témoignage. Ces instructions sont pour encourager les esclaves à voir leur travail lui-même comme un travail spirituel. Avec les yeux de la chair, ils ont un travail qui leur est imposé par un maître humain. Mais avec les yeux de la foi, tout change. Et ils peuvent reconnaître que leur vrai maître, c'est Jésus. Et le travail qu'ils font est donc un travail spirituel. Ce qu'ils font, ils ne le font pas pour les hommes. Ils le font pour le Seigneur. Et c'est lui qui leur donnera une récompense. Vous voyez dans ce passage, Paul efface la distinction que nous faisons entre le monde spirituel et le monde terrestre. Pour un croyant, tout est spirituel. Et ça veut dire que Dieu est présent dans chaque aspect de notre vie. Et chaque aspect lui est important. Et ça veut dire que Dieu est présent dans chaque aspect de notre vie. Je ne sais pas ce que vous trouvez difficile dans votre travail. J'imagine que ça prend peut-être une seconde et demie ou moins pour penser à ce qui est difficile dans votre travail. Nous ne sommes pas esclaves, je pense. Mais peut-être que votre chef est injuste. Peut-être que vous avez l'impression que votre époux ou votre épouse ou vos enfants n'apprécient pas le travail que vous faites. Comment vous travaillez dur et que personne ne reconnaît votre capacité et votre vraie valeur. Qui n'a jamais expérimenté ça? Ce genre de situation peut être très, très décourageant et très, très démotivant. Vous tombez dans votre lit à la fin de la journée, épuisé et presque accablé par la pensée que dans 8 heures ou dans 6 heures, il faudra vous lever et refaire exactement la même chose. C'est épuisant, des fois. Mais je vous encourage, l'apôtre Paul vous encourage à voir avec les yeux de la foi. Vous ne travaillez pas pour les hommes. Vous travaillez pour le Seigneur. C'est lui qui vous a confié cette tâche et il est avec vous dans votre travail. C'est la vocation là du travail. C'est l'appel que nous avons. Mais si le travail vient de Dieu, il y a quand même des dangers, des tentations. Depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde, toute bonne chose est corrompue et contaminée par le mal. Vous vous souvenez du passage en Genèse 3? Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque toi, tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. » Depuis la chute, notre travail, que ce soit le travail que nous faisons à la maison ou dans le monde, notre travail sera difficile. La terre nous résiste. Notre cœur et notre âme se fatiguent. Et du coup, l'une des tentations que nous pouvons avoir, c'est d'éviter le travail, de se laisser accabler par le découragement et par la difficulté du travail. Et c'est vrai que notre travail peut être décourageant. On peut avoir l'impression de rien accomplir, de ne pas avancer, de subir échec après échec. Et c'est l'une des raisons qu'il est tellement important de se souvenir de ce que nous venons de voir. À la base, le travail est une bénédiction et une vocation qui vient de Dieu. Parce que pour faire face à ces défis, il faut une perspective spirituelle. Il faut se souvenir que nous ne travaillons pas pour les hommes, mais pour Dieu. Mais attention, parce que ce n'est pas juste la difficulté du travail qui peut nous tenter de l'éviter. c'est aussi la faiblesse de notre esprit, notre nature pécheresse qui nous pousse à la paresse. On ne parle pas trop de la paresse dans l'Église, je trouve. Mais le livre de Proverbes est rempli d'avertissements contre la paresse. Proverbes 21-25, par exemple. « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. » Ou 19-15, « La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'homme nonchalant connaîtra la fin. » Alors, soyons clairs. Ce n'est pas juste les paresseux qui peuvent avoir faim. Comme nous avons déjà vu en parlant de la dignité humaine et comme nous le reverrons lorsque nous parlons de la justice sociale, nous sommes appelés à aider les pauvres et les démunis, justement parce qu'il peut y avoir des circonstances dans la vie qui nous laissent démunis sans la possibilité d'en sortir seul. Et il ne faut pas tomber dans le piège d'imaginer que tous ceux qui sont pauvres sont forcément paresseux. En effet, la plupart ne sont pas. Mais nous devons aussi reconnaître, surtout pour nous-mêmes, sans forcément pointer le doigt aux autres, que nous serons tentés, en tant qu'êtres humains, d'éviter le travail. Ça sera une tentation. L'exemple le plus extrême de cela, c'est la personne qui cherche toujours à trouver un moyen de gagner sa vie qui n'exige pas le travail, de gagner au loto, de trouver une combine pour s'enrichir sans travailler vraiment, de profiter des autres pour vivre. Et l'apôtre Paul en parle clairement en 2 Thessaloniens 3:10. Je vais lire. « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Parce qu'on en a le temps quand on ne travaille pas. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Alors, encore, notons bien que Paul ne parle pas ici, de ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils n'en trouvent pas. Il parle de ceux qui ne veulent pas travailler. Ce n'est pas la même chose. Mais là, quand on pense à la pertinence de ce passage à notre vie, il faut faire attention parce que ce serait très facile de se dire « Mais moi, je travaille » ou « Je veux travailler ». Et donc, ce passage ne s'applique pas à moi. Mais comment travaillons-nous? Travaillons-nous comme pour le Seigneur, avec tout notre cœur, ou cherchons-nous toujours à faire le minimum? À tout simplement faire ce qu'il faut pour ne pas être viré, mais rien de plus. Moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais comme assistant à un garagiste. Mais c'était un garage un peu spécial, justement parce qu'en partie parce qu'il y avait plusieurs jeunes assistants comme moi qui travaillaient pour gagner un peu d'argent sans être vraiment formés. Et ce n'était donc pas toujours évident combien de temps telle ou telle réparation devrait nous prendre. Et donc nous avons vite compris, moi et les deux autres jeunes, que si le boss n'était pas là pour nous surveiller, qui n'aurait aucune idée en rentrant si nous avions bien travaillé ou pas. Nous pouvions terminer un projet dans une heure et puis passer une deuxième heure à bavarder et il n'en serait rien. Et c'est une vraie tentation, d'autant plus parce qu'on gagnait presque rien. Et nous sommes bien justifiés si nous faisons presque rien, nous nous disions. L'un de mes amis avait même pris l'habitude de s'endormir sous l'une des voitures lorsque le chef n'était pas là. Et comme ça, si le chef rentrait à un moment imprévu, il aurait le temps de se réveiller sans que le chef le voie. Alors, on peut dire que ce n'est pas un grand péché, ça. Mais c'est comme ça qu'on commence à cultiver une attitude que le but, c'est de faire le moins possible. que nous méritons mieux et qu'il faut profiter du système si l'on peut. Et c'est sûr que là, on ne travaillait pas comme pour le Seigneur. On travaillait comme pour un chef qui était un peu méchant et aussi un peu stupide. Alors peut-être que ce n'est pas votre attitude. Peut-être que vous ne vous endormez pas lorsque le responsable n'est pas là. Mais quelle est notre attitude envers le travail dans d'autres situations? Pensons à la maison, par exemple. Êtes-vous content de laisser votre femme ou votre mari ou votre colocataire ou vos parents de les laisser tout faire parce que vous pensez le mériter? Et dans tous les cas, vous n'avez pas envie. Et si vous ne le faites pas, ils vont le faire. Donc, pourquoi bouger? Ce n'est pas facile de travailler toute la journée et puis rentrer et faire tout ce qu'il faut à la maison. Ce n'est pas facile de faire un bon travail pour un patron qui ne nous apprécie pas. Ce n'est pas facile de se lever tôt pour gagner sa vie. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est une responsabilité spirituelle. Le travail n'est pas facile, mais il est quand même notre vocation et notre bénédiction. Alors, si la paresse est le premier danger auquel il faut faire face par rapport au travail, l'autre est son opposé, c'est l'ambition. Je m'explique. Jean-Serge nous a déjà montré comment la Bible nous enseigne à ne pas chercher la richesse matérielle dans cette vie, mais plutôt la richesse spirituelle. Comme dit le proverbe, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qu'il m'est nécessaire. » Le but de notre travail n'est pas de devenir riche, mais d'avoir ce qu'il faut pour vivre et pour donner aux autres, et pour accomplir la tâche que Dieu nous a donnée. La tâche de cultiver sa création. Mais nous avons souvent du mal à nous contenter avec ça. Et donc ce manque de contentement peut produire en nous l'ambition de devenir riche. Nous faisons facilement une idole de la richesse. Et donc si certains sont tentés de ne pas travailler, il y a d'autres qui sont tentés à trop travailler. Mais cette tentation, ce n'est pas juste pour l'argent. Ce n'est pas juste l'amour de l'argent qui peut nous pousser à accorder une place trop importante au travail. Des fois, ce n'est pas l'argent qui nous attire, mais le succès ou l'admiration des autres. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. Le sentiment d'être meilleur que les autres même. Qui d'entre nous n'a jamais fait quelque chose au travail pour se montrer supérieur aux autres, ou au moins pour se penser supérieur aux autres. Nous avons vu comment le travail est quelque chose de bon, un don de Dieu, mais il faut reconnaître les stratégies de Satan dans cette vie. Si Satan n'arrive pas à nous attirer vers le mal, vers la paresse par exemple, on peut être sûr qui va nous attirer vers le bien et puis essayer de déformer ce bien en sorte que le bien même devienne un mal. Nous accordons à ce bien une place trop grande dans notre vie et il devient une idole. Un exemple, la sexualité. C'est un don de Dieu, mais si nous donnons au désir sexuel une place trop importante dans notre vie, elle devient une idole parce qu'elle dicte notre comportement et donc elle devient notre Dieu. L'argent aussi peut être une bonne chose, mais l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, nous l'avons vu, parce que aimer l'argent signifie qu'on en fait une idole. Et c'est pareil pour le travail. Le travail est une bénédiction, mais dès qu'on le met au centre de notre identité, il devient une idole. Il prend la place de Dieu dans notre vie. Parce que nous faisons tout pour faire avancer notre carrière, pour grimper l'échelle, pour impressionner les autres par notre succès. Nous trouvons notre identité dans ce que nous faisons au lieu de dans ce que nous sommes. Et nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous trouvons notre identité dans ce que nous faisons, nous négligeons notre relation avec Dieu, nous négligeons nos relations avec notre famille et nos églises et nos amis et aussi notre église. Nous négligeons nos responsabilités pour passer de plus en plus de temps à travailler parce que ce travail est devenu notre identité. Si vous avez déjà perdu votre boulot à un certain moment dans votre vie, vous savez peut-être à quel point ça peut être bouleversant. Justement parce qu'on le ressent comme une perte d'identité des fois. Et si vous n'avez jamais eu cette expérience, posez-vous la question, qui serais-je si je ne pouvais plus exercer mon métier? Aurais-je le sentiment de ne plus être la personne que je suis? Où est-ce que je trouve mon identité? Dans ce que je fais ou en Christ? Au moment où nous avions quitté les États-Unis pour la France, j'étais encore assez jeune, mais j'avais quand même déjà commencé à construire une sorte d'identité autour de mon expérience en tant qu'enseignant. C'était devenu en quelque sorte mon identité. Mais en arrivant en France, je ne pouvais plus le faire, parce que je ne parlais pas un mot de français. Qu'est-ce qu'un enseignement qui ne peut pas parler? Qu'est-ce qu'un enseignant qui ne peut pas parler? Il n'est rien. Et pendant quelques ans, j'ai lutté avec cette perte d'identité. J'ai dû lutter à retrouver mon identité ailleurs, à retrouver mon identité en Christ. Au lieu de mon travail, même si ce travail avait été un ministère dans l'Église. Parce que ce n'est pas juste ceux qui travaillent dans le monde qui doivent faire attention à cette tentation. Tout travail peut devenir une idole si nous en faisons notre identité. Même un travail ou un service à l'Église. Si vous trouvez votre identité dans ce que vous faites, même si c'est quelque chose que vous faites pour l'Église, même si vous le faites pour Dieu, au lieu de trouver votre identité dans qui vous êtes, un enfant de Dieu, vous avez commencé à faire de votre travail une idole ou à faire de votre ministère une idole. Quoi faire alors face à ces deux tentations? Le travail est bon, mais il est aussi une source de tentation. Il peut nous décourager et nous tenter d'être paresseux. Il peut aussi nous tenter de faire de lui notre identité, et ainsi il devient une idole. Comment trouver l'équilibre entre ces deux tendances humaines? La Bible, comme d'habitude, la Bible nous donne la solution. Et encore, c'est une vérité qui a ses racines dans les premiers chapitres de Genèse. Chapitre 2, verset 2. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et puis, dans la loi de Moïse, en Exode, pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la septième année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Nous travaillons et puis nous nous reposons. C'est le principe du sabbat. Et comme pour les autres principes que nous voyons pendant cette série, même si nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse, le principe est toujours valable. Bien sûr, comme Jésus le montre, ça ne sert à rien de faire du sabbat encore un fardeau, d'avoir une approche tellement légaliste comme les pharisiens que ce n'est pas vraiment du repos. comme Jésus le dit, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Mais cette parole du Christ nous rappelle aussi que le sabbat est fait pour nous. Nous devons observer le principe du sabbat pour notre propre bien et pour le bien des autres aussi. Notons bien que le sabbat existe en grande partie pour le bien des autres, pour que tout le monde puisse reprendre son souffle. C'est ça qui est dit dans la loi de Moïse. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le sabbat. Nous avons eu tout un message là-dessus, en fait, l'année dernière, que vous pouvez trouver sur le site web de l'Église, si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste souligner deux choses. D'abord, avoir un jour de repos chaque semaine nous permet de trouver l'équilibre entre la paresse et l'ambition. L'être humain n'est pas fait pour se reposer tout le temps, ni pour travailler tout le temps. Mais par notre propre nature, nous serons toujours tentés d'aller vers un extrême ou l'autre. Et pourtant, la Bible nous donne la solution, travailler 6 jours et se reposer 1. Alors, ça ne veut pas dire forcément 6 jours au boulot, même si c'était possible. Le travail dans notre vie ne se limite pas à ce qu'on fait au boulot. Il y a des choses à faire à la maison, des choses à faire pour les autres, des choses à faire pour l'Église même. Tout cela, c'est notre travail. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le travail dans l'Église. On peut imaginer que ce que nous faisons pour l'Église, ce que nous faisons pour le Seigneur, ne compte pas comme un travail. Je sais, par exemple, que certains d'entre nous ont passé du temps dans des églises où on s'attendait à ce qu'on travaille toute la semaine au boulot, tout le samedi à la maison et tout le dimanche pour l'Église. Comme si le simple fait de faire quelque chose pour le Seigneur était une sorte de sabbat. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la description du sabbat que nous avons dans la Bible. Bien sûr, ce que nous faisons pour le Seigneur est souvent une bénédiction pour nous d'une façon que notre boulot ne peut pas l'être. Mais ça ne veut dire pas que ce n'est pas un vrai travail ou que c'est forcément reposant. Vos ministères dans l'Église prennent de l'énergie, surtout si vous voulez faire avec excellence. Et dire autrement serait de dévaloriser en fait ce qu'on fait pour le Seigneur, comme si ça ne demandait pas d'effort. Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui servent dans l'Église savent bien que ça prend de l'énergie. C'est pour ça que nous nous organisons en équipe, pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui est obligée de faire un certain ministère chaque dimanche. Parce qu'il est nécessaire pour nous tous de pouvoir venir au moins de temps en temps simplement pour recevoir, pour avoir un vrai sabbat complet. Bien sûr, le pasteur est un cas un peu spécial et je ne vais pas entrer dans les détails de comment je gère tout ça. Mais le principe est important pour nous tous. Nous avons besoin du vrai repos. Et l'un des défis dans notre vie chrétienne alors, c'est de faire des choix dans notre vie qui nous permettent d'avoir du temps pour les ministères de l'Église sans finir par travailler chaque jour et chaque soir, 7 jours sur 7. L'être humain n'est pas fait pour ça. 6 jours du travail et 1 jour de repos. C'est le principe. Le 7e jour, si le 7e jour doit être décalé ou divisé en plusieurs parties, comme font la plupart des pasteurs, ce n'est pas un problème. Sous la nouvelle alliance, nous ne devons pas être légalistes par rapport à ces choses. Nous devons répondre à l'esprit pour savoir appliquer ce principe. Mais nous ne devons pas non plus abandonner ce principe, cette vérité que l'être humain est fait pour travailler et se reposer. Ce repos est nécessaire physiquement et émotionnellement. Même les psychologues non chrétiens commencent à le reconnaître. Vous connaissez le terme anglais « burn-out » On en parle tellement maintenant dans la culture occidentale parce que c'est le résultat d'un déséquilibre où on se donne au travail sans se reposer comme Dieu nous dit de le faire. Ce n'est pas toujours facile de le faire. La vie moderne est chargée. Ce n'est pas toujours facile de trouver le temps pour se reposer. Mais c'est un commandement de Dieu pour notre bien. Il nous donne ce commandement pour notre bien. Alors, une dernière chose. Ce n'est pas juste sur le plan physique et émotionnel que nous avons besoin du sabbat. Si le travail est spirituel, comme nous l'avons vu, le repos est aussi spirituel. Et c'est ça la deuxième chose que je veux souligner par rapport au sabbat. Le principe du sabbat nous est nécessaire au niveau spirituel pour une raison simple. Le fait d'arrêter notre travail nous rappelle que ce n'est pas à nous de faire tourner le monde. C'est à Dieu. Tout ne dépend pas de moi. En fait, tout dépend de Dieu. Le sabbat existe pour que nous ne fassions pas une idole, ni de notre travail, ni de nous-mêmes. Je ne suis pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Le monde ne va pas s'écrouler sans toi. Je suis désolé, on aimerait bien le croire des fois. Le monde va s'écrouler si je ne suis pas là. Mais ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui tient le monde. Dieu nous demande de travailler pendant 6 jours et puis il s'occupe du reste. À chaque fois que j'arrête mon travail, je suis obligé de remettre ma confiance en Dieu. Pendant que je travaille, je peux vivre sous l'illusion que c'est moi qui va faire réussir ma vie. J'accomplis des choses, j'avance vers tel ou tel but, mais dès que je m'arrête, je ne peux que me souvenir que finalement, c'est Dieu qui doit s'occuper des résultats. C'est un acte d'adoration, en fait, de se reposer, parce qu'en le faisant, je proclame à moi-même et aux autres et à Dieu que j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel qui a ma vie entre ses mains. Si vous n'avez jamais mis votre vie entre les mains de Dieu, je vous encourage à le faire maintenant. Mettez votre foi en Christ en qui tout subsiste. Et si vous l'avez fait, confiez-la de nouveau aujourd'hui à notre Créateur. Ne passez pas votre vie en travaillant comme pour les hommes. Passez votre vie en travaillant pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, faisons-le pour lui. Pas pour les autres, pas pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre vrai Maître, toute bonne chose vient de lui. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la bénédiction du travail. Nous te remercions pour la bénédiction du repos. Nous confessons que nous sommes tentés des fois, tentés par la paresse, par le découragement, tenté par l'ambition, par l'idolâtrie. Nous déposons ces tentations devant toi et nous te demandons de prendre tout entre tes mains. Certains d'entre nous souffrent en ce moment parce que nous ne trouvons pas de travail ou parce que le travail est difficile. Et pour ces frères et sœurs, nous prions ensemble que tu leur donnes un travail en ton temps et que surtout qu'ils puissent voir ta présence à chaque instant, qu'ils puissent voir ta main à l'œuvre et voir que tout dans cette vie est spirituel et toi, tu es présent avec chacun de tes enfants à jamais, l'Éternel qui nous aime. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter en réponse à ce que nous avons entendu.